Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, tidicline à calcicline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais. Parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à Montagne Autrement 2030 qui nous questionne sur l'évolution du tourisme en moyenne montagne. Le domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Planolais, massif de Chartreuse, est terrain pilote pour le projet européen Transtat. L'objectif est de cerner comment élus, socio-professionnels, habitants et touristes appréhendent le devenir de leur territoire face aux effets du changement climatique. Et de trouver des axes de réflexion vers un tourisme durable pour cette station de moyenne altitude qui n'est pas rentable. À ce titre, une réunion publique a eu lieu en décembre 2024 à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Cette table ronde a été enregistrée et c'est ce qu'on vous propose d'écouter maintenant. Bonne écoute à tous.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Merci d'être là nombreux et d'avoir rempli la salle. On est heureux de vous voir pour cette réunion publique autour de la démarche Montagne Autrement et de la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse, le Planolais. Juste un petit mot, donc moi je m'appelle Claire Simon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je vais vous animer tout au long de la soirée, mais on va être très très nombreux à prendre la parole parce qu'on a été nombreux à travailler sur cette démarche, et donc ça va être aussi le reflet ce soir. Donc avant de poursuivre davantage, je propose aux membres du comité de coordination qui ont impulsé toute la démarche dont on va parler ce soir et qui se déroule depuis un an, donc le comité de coordination qui a impulsé cette démarche et qui l'a portée tout au long de l'année. Je leur propose de se lever pour se présenter et puis vous donner un petit mot d'accueil. Donc on a Anne L'Enfant de la communauté de communes et puis Wilfried Tissot aussi de la communauté de communes, Stéphane Gusmeroli, donc le maire de Saint-Pierre de Chartreuse, Marc Cottier, le maire de Saint-Pierre d'Entremont-Isère et puis Yann Daniel qui représente l'association Nouvelle Trace. Donc tout ça, c'était le comité de coordination qui a piloté cette démarche tout au long de l'année. Je vous laisse dire un petit mot d'accueil.
Alors bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous voir nombreux ce soir pour faire ce point de présentation sur où on en est de Montagne Autrement. Cette démarche a été initiée il y a déjà un an à peu près et elle était née d'un regroupement, en fait, de la mobilisation d'un collectif de socio-professionnels pour accompagner la communauté de communes dans la gestion du domaine skiable il y a deux hivers. Et suite à cela, ce collectif a pu se constituer en association Nouvelle Trace en Chartreuse pour gérer le domaine skiable du Planolais, les téléskis, sous format d'une DSP. Voilà, l'année dernière, mais c'est pas à moi de raconter tout ça, Yann pourra le faire. Et ce comité de coordination donc regroupe les deux communes support du domaine skiable, la communauté de communes en tant qu'ayant la compétence, et puis Nouvelle Trace en Chartreuse, puisque l'année dernière, vous aviez exploité le Planolais. Voilà, donc c'est un processus qui s'inscrit dans la durée, mais qui avance relativement vite, et on va décliner tout cela. Évidemment, ce n'est pas en introduction qu'on rentre dans les détails, mais on va vous présenter tout ça puisque le groupe du grand public a souhaité être informé. On s'était engagé au début de l'année à faire une réunion publique donc pour donner toutes ces informations.
Bonsoir à tous. J'avais prévu un petit mot, mais je vais faire court parce que l'ordre du jour est très chargé. Donc, je voulais simplement féliciter tous les participants de la qualité du travail qui a été mené et de l'état d'esprit dans lequel c'est amené, à savoir l'esprit, l'écoute et l'ouverture. Sur un sujet aussi complexe qu'est la station et aussi sensible, c'est jamais facile, en fait. Et là, je trouve que tous les participants ont pu s'exprimer. Il y a eu beaucoup de participation, beaucoup de propositions. Des idées nouvelles ont été formulées lors de ce travail de quelques mois. On va le voir ce soir. Et je m'en félicite vraiment. Donc vous allez découvrir tout ce qui a été fait pendant ces quelques mois. C'est un point d'étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On va l'évoquer, notamment la question des téléportés, qui est encore un gros sujet. Mais on a vraiment avancé tous ensemble, et ça, je m'en félicite. Et je remercie encore tous ceux qui ont bien voulu participer à la démarche, associations, privées, habitants, élus, évidemment. Mais tous, je crois qu'on a su avancer dans la même direction, et ça, c'est très réjouissant. Merci encore à tous.
Ce qui est important, c'est qu'il faut, il faut regarder qu'au départ, nous étions deux communes, un petit peu à l'écart, et nous nous sommes rapprochés pour pouvoir travailler ensemble. Et ce qui était quelque chose d'un petit peu déceptionnel, est venu là-dessus s'ajouter bien de personnes qui ont cru à cette à ce renouveau de la station, puisque bon, en définitive, on était tourné vers le ski et maintenant on se tourne vers d'autres activités. Je dirais que tout ce travail qui a été fait, Stéphane vient de le dire, tout ce travail qui a été fait, c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui se sont investis là-dedans. Et je dirais que ce que nous allons voir, ce que nous allons encore débattre, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir de notre vallée. C'est, je dirais, ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, ce que nous pouvons et ce qu'on a encore envie de faire pour la Chartreuse.
Merci pour ces mots d'accueil. Je vous invite à du coup reprendre place. On peut les applaudir hein, quand même. Ça fait partie de s'applaudir, les applaudir, mais s'applaudir aussi, ça fait partie de ce que disait Stéphane, c'est-à-dire on a fait du bon travail et ça fait partie de la convivialité et d'état d'esprit de collaboration.
Bonsoir à toutes et tous, donc ravie d'être ici. Je me présente, Emmanuel Georges, je suis chercheur à INRAE à Grenoble en économie territoriale et je pilote le projet européen Transtat. Transtat, ça veut tout simplement dire qu'on s'intéresse aux transitions des stations et des territoires touristiques de montagne. C'est un projet de 3 ans qui va se finir fin 2025 et on travaille avec un réseau de 9 stations dans 5 pays européens, donc Slovénie, Italie, Suisse, Autriche et France. En France, on est précisément dans votre territoire, mais également à Megève. Et donc, on va intervenir à deux voix avec Mathieu Schoendorfer, qui est aussi à INRAE. Et puis, on excuse deux de nos collègues, Véronique Régnier, qui est à l'Université Grenoble-Alpes, et puis Raffaella Balzarini, qui, les deux, ont aussi contribué. Alors, la commande, en moins de 10 minutes, ce qui va quand même être compliqué, c'est de rendre compte d'un diagnostic qu'on a réalisé sur le domaine skiable, la station et le territoire, et dont on avait rendu les principales conclusions en réunion publique le 30 janvier dernier. Donc, je vais évidemment vous présenter avec Mathieu que quelques éléments, hein, ça sera à la SERP, et je m'en excuse par avance. Mais l'idée, c'était de vous donner à voir un peu les principaux facteurs. Alors, on peut peut-être commencer donc par la slide sur le domaine skiable, évidemment que vous connaissez tous, qui correspond à celui d'une station de moyenne montagne qui démarre quand même assez bas en altitude, hein, 900, qui monte à quasiment 1800, qui est un domaine skiable avec 3 entrées et qui est un domaine skiable assez exigeant. Donc c'est vraiment le périmètre que vous connaissez. Alors aujourd'hui, il n'est exploité que sur 5 téléskis au Planolais. Mais ce domaine skiable, c'est le fruit d'une très longue histoire de création et d'évolution de la station qui a commencé au début du 20e avec des premières initiatives touristiques, hein, souvent d'acteurs extérieurs, je pense au Touring Club de France, à l'Automobile Club. Et puis progressivement, on a eu un développement de la station avec différentes phases qui ont abouti à ce périmètre de domaine skiable que vous connaissez. Alors, derrière ce périmètre-là, il y a un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est la question de la rentabilité. Donc ici, vous avez simplement à gauche un graphique qui montre l'évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques et l'évolution des journées skieurs et des jours d'ouverture. Ce que ça montre, c'est, et vous avez les chiffres à droite, je ne vais pas tous les commenter, vous aurez le PowerPoint, hein, mais en gros, on est dans 1,4 million de chiffre d'affaires sur une moyenne, 130 000 journées skieurs d'ouverture et à peu près 70 jours en moyenne d'ouverture du domaine skiable. Pour vous donner un repère à l'échelle internationale, on considère qu'il faut environ 100 jours d'exploitation pour qu'un domaine skiable ait un modèle économique qui soit viable. Et surtout, derrière ces éléments-là, le plus important, c'est que Saint-Pierre-de-Chartreuse est plutôt dans le bas de sa catégorie de station moyenne en termes de niveau de chiffres atteints qui mesurent une forme de rentabilité de ce domaine skiable. Donc on est avec des problèmes de déficit. On est aussi avec, et je pense que vous en parlerez, ou sans doute la communauté de communes, avec des remboursements d'emprunts à assumer par la collectivité et communauté de communes depuis 2016 qui a la compétence gestion des remontées mécaniques. Alors là, je parle de la situation aujourd'hui. Ce qui est important à prendre en compte, évidemment, je n'ai pas le temps de vous le montrer là, mais c'est que c'est à apprécier le long de la trajectoire temporelle d'évolution de la station. C'est-à-dire que ce déficit, on en parle là aujourd'hui, mais il existait déjà dans les années 70-80, puisqu'il y a eu à des moments des déficits des régies communales qui exploitaient la station et qui ont amené en fait à la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique avec les deux communes, Saint-Pierre de Chartreuse et Saint-Pierre d'Entremont-Isère, pour prendre en charge la gestion de ce domaine skiable parce qu'il y avait des problèmes de rentabilité l'exploitation. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est à apprécier le long d'une trajectoire. Et puis aussi, peut-être un élément important, c'est qu'on est avec une station moyenne qui a un niveau d'infrastructure en termes de remontée mécanique d'ampleur qui est assez important par rapport à la catégorie des stations de moyenne montagne, avec sans doute des choix d'aménagement qui ont peut-être été à un moment peut-être surdimensionnés par rapport à ce qu'était la station et à sa catégorie. Alors ça se passait dans une autre période, un autre contexte. On n'était pas dans le même évolution de fréquentation touristique. Et puis, on a toujours des pressions amicales d'un certain nombre d'équipementiers en remontée mécanique. Mais voilà pour vous dire la rentabilité du domaine skiable. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, et c'est la slide suivante, c'est bien sûr le changement climatique. Donc là, je vous ai juste mis... Juste mis une carte que, donc, ce sont des travaux qu'on mène à INRAE et Météo France depuis maintenant 10 ans. Donc là, on est dans des projections climatiques. Vous êtes à horizon 2035, hein, c'est-à-dire dans 10 ans, donc c'est pas si loin que ça. Et vous avez à gauche la représentation du domaine skiable. Hein, donc vous voyez le domaine skiable. On est à horizon 2035 dans un scénario qui est un scénario sur lequel on est, hein, c'est-à-dire une hausse de la température moyenne à l'échelle internationale de 2 degrés. Donc c'est quelque chose où on est sur cette pente-là et où vous voyez qu'on est dans une carte où on représente les hivers faiblement enneigés qui vont d'ailleurs devenir de plus en plus importants. Vous voyez qu'à gauche, on a un domaine skiable où le bas, c'est-à-dire le front de neige, on est en dessous de 50 jours d'exploitation, donc d'ouverture, de skiabilité du domaine skiable, et il n'y a que la partie moyenne et la partie haute qui atteint à peu près 80 à 100 jours d'ouverture. Et puis, quand on est à droite, on est toujours à la même période. Par contre, on est dans un scénario qu'on appelle pessimiste, mais qu'on pourrait peut-être appeler autre, où on est avec une hausse de la température moyenne internationale, au niveau international, à plus 4 degrés. Et là, vous voyez que votre domaine skiable, il est quasiment jaune partout, sauf vraiment le petit bout en haut, en termes de skiabilité. Alors là, j'ai pris les cartes d'hivers faiblement enneigés, mais on sait que ces hivers deviennent de plus en plus fréquents. Donc voilà, c'est un autre élément à poser en termes de diagnostic. Troisième élément de diagnostic, c'est que là, je vous parle du domaine skiable. On sait évidemment qu'un domaine skiable, c'est très lié à l'hébergement touristique quand on est dans une station moyenne ou de grande altitude ou de grande taille. Dans ce domaine, le Saint-Pierre de Chartreuse n'échappe pas à quelque chose qu'on connaît dans pratiquement toutes les stations, c'est-à-dire à la fois des lits marchands, mais souvent beaucoup de lits en résidence secondaire. Donc vous avez environ 1400 lits marchands et le double en résidence secondaire, avec derrière la problématique de savoir comment ces résidences secondaires sont remplies, bien remplies, qui sont les gens qui les remplissent, quel attachement ils ont à la station, etc. Bien sûr, l'offre ski, c'est une partie de l'offre, c'est un produit d'appel dans une station, il n'y a pas à revenir là-dessus, mais ça s'intègre dans une offre touristique qui est beaucoup plus globale. Et on vous a mis à droite une carte qui recense un peu déjà tout ce qui existe sur vos territoires. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses en termes d'offres. Donc, c'est voir comment tout ça fonctionne ensemble, est en complémentarité, en été, en hiver, en intersaison. Et puis surtout, c'est aussi de prendre en compte cette progression qu'on voit de manière assez visible de l'été. Donc j'ai simplement mis une slide de Saint-Pierre de Chartreuse hein, qui traite les taxes de séjour et qui montre que les pics importants de cette taxe de séjour, elles sont plutôt sur l'été. Donc voilà, ce sont des éléments à prendre en compte et qui renvoient, et ça sera la dernière slide de présentation par Mathieu, à la question de qui sont vos touristes et de ce, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de caractéristiques.
On marque une pause musicale et on revient dans un instant pour poursuivre votre émission. A tout de suite.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Nous sommes de retour dans cette émission consacrée à Montagne Autrement 2030.
Voilà, donc je vais vous présenter quelques petits morceaux d'une enquête qu'on a fait auprès des visiteurs l'été 2023, puis l'hiver dernier. Donc c'est vraiment juste des petits morceaux et on pourra vous transmettre un document plus complet si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. On allait les interroger sur pourquoi ils viennent en Chartreuse. Les premières choses qui ressortaient, c'était le calme, les paysages, la randonnée, la relative faible fréquentation. L'été, il y avait vraiment le côté vert, le côté fraîcheur. Et l'hiver, on a la neige qui vient. Et plus globalement que la neige, tout ce qu'il y a comme marqueur autour de l'hiver. Donc, aller faire des glissades, aller faire une bataille de boules de neige, aller manger un plat associé à l'hiver, etc. Donc ça ressortait beaucoup. Et le ski était davantage vu comme une cerise sur le gâteau, un plus. Avec l'accessibilité financière qui est bien là aussi, été comme hiver. On allait aussi les interroger sur comment ils voient le territoire. Et ce qui ressortait d'abord, c'est que souvent, c'est que c'était vu comme un territoire, et c'était vu positivement comme un territoire qui se mérite. C'est-à-dire que pas tout n'est organisé pour les touristes, qu'il faut faire un effort pour aller dans certains endroits, que ce n'est pas suraménagé, et tout ça donne un caractère authentique au territoire, et ce qui est vraiment valorisé par les personnes qu'on a rencontrées. Il y avait le côté d'être loin, ou d'avoir un sentiment d'éloignement tout en étant à proximité des grandes villes, des axes de communication qui ressortaient beaucoup aussi. une opposition et les gens affirmaient beaucoup le fait d'être là parce qu'ils ne voulaient pas aller dans des grandes stations en ville ou au bord de la mer. Et donc une spécificité comme ça assez commune à la moyenne montagne en général. Et enfin, pour donner quelques petits éléments qui sont sortis, qui peuvent donner quelques perspectives sur la suite dans un contexte de réchauffement climatique, ce qui apparaissait nettement, c'est la résilience des personnes face au manque de neige quand ils étaient là pendant l'hiver et qu'il n'y avait pas de neige. Ils allaient alors changer d'activité, aller chercher des activités pour occuper les enfants notamment, ce qui ressortait beaucoup, élargir leur périmètre d'activité, mais globalement repartir contents de leur séjour. Par contre, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui se passera à la suite. Quand on les interroge sur ce qu'ils feront plus tard dans les cas où les hivers sans neige venaient à se répéter et s'accentuer, il y en a qui projettent de plus venir, d'autres qui projettent de continuer à venir en changeant d'activité, de changer à d'autres périodes, de venir à d'autres périodes, etc. Ce qui ressort en tout cas, c'est que la montagne en général et la Chartreuse gardent un attrait même l'hiver sans neige pour une partie de la population, et qu'il y a vraiment une tension qui devient de plus en plus nette entre deux motivations. D'un côté, avoir envie d'avoir de la neige, une forme de garantie neige, mais surtout l'envie de venir dans une station qui soit familiale, qui soit accessible, qui soit pas très chère. Et dernier point, on a beaucoup eu la volonté d'avoir un impact positif sur le territoire, de protéger le territoire, de faire vivre le territoire, de rechercher du sens, d'expérimenter, et l'attente de notre côté d'avoir une offre qui corresponde à des valeurs, qui soient éthiques, locales, etc. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait avec les touristes. On a, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, on fait un travail auprès des habitants qu'on a rencontrés pour certains parmi vous en entretien, d'autres qui ont répondu à un questionnaire, et on vous en remercie beaucoup. On est en train d'analyser les résultats de tout ça et on pourra revenir vers vous avec une présentation sur début 2025 là-dessus.
Juste pour terminer, on a beaucoup mis le focus, pour des raisons de temps évidemment, sur le domaine skiable, sur la station, mais pour nous, ça s'intègre aussi à une échelle plus large de la dynamique territoriale dans un territoire où il y a aussi d'autres activités économiques, agricoles, industrielles, etc., et une dynamique aussi résidentielle, avec un territoire qui a gagné en population, qui a aussi des situations contrastées à l'intérieur. Et donc, c'est tous ces éléments qu'on regarde aussi pour questionner la place du tourisme en lien avec les autres activités et son devenir face au changement global, dans lequel il y a bien sûr le changement climatique, mais pas que. Voilà. Merci.
Merci à vous. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir, hein, parce que... C'était pas un exercice facile et on pourrait y passer la soirée avec tout le travail qu'ils ont fait. On va maintenant vous présenter un petit peu cette démarche qui a été appelée Montagne Autrement 2030 et qui s'est déroulée depuis le début de cette année, depuis janvier. Donc on va être à plusieurs voix pour le faire et je propose à Charlotte, Eric, Michel et Yann, si vous pouvez venir devant là comme ça. Ça sera plus fluide, le passage de parole entre nous, pour vous exposer un petit peu tout ce qui s'est passé en un an, et il s'en est passé des choses, il y a eu un gros travail de fait. On va vous parler d'abord du contexte de ce travail, qu'est-ce que c'est que cette démarche Montagne Autrement 2030. Ensuite, on va vous introduire une notion qu'on a appelée la vision espace, puis la vision site avec le planolé d'un côté, les essarts de l'autre, et ensuite les prochains pas. Le contexte, très rapidement, on était dans un travail où il y a eu un diagnostic qui a été réalisé par certains ont peut-être eu des échos, Jean-François Caron, dans le cadre de la Fabrique des Transitions, et qui, à l'issue de ce diagnostic, proposait au territoire d'avoir un accompagnement pour travailler sur un projet pilote. Au final, c'était deux projets pilotes de transition. En parallèle de ça, comme vous l'avez entendu, il y a le travail sur Transtat qui était mené, avec également aussi des réflexions et toute une analyse autour de la question de la transition. Du diagnostic de Jean-François Caron en particulier a émergé l'idée que pour permettre la transition sur le territoire, la question du ski était un élément essentiel qu'il était important d'aborder, de traiter collectivement pour pouvoir avancer dans la transition du tourisme, mais aussi potentiellement au-delà du tourisme. Il y avait aussi la nécessité, dans ce point de départ, de mettre en place des nouvelles coopérations entre les acteurs publics, privés, associatifs, et de développer une offre touristique équilibrée, ancrée dans les valeurs du territoire et moins sensible au changement climatique. Ces éléments-là, ce n'est pas moi qui les ai inventés,
Ça a été écrit au départ par le comité de coordination, vous avez vu, qui a posé ces éléments de contexte en disant bah, « c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite travailler ». Et donc, on a commencé à travailler sur la transition de la station Saint-Pierre de Chartreuse, le Planolet, comme étant un élément du puzzle de la transition de l'ensemble du territoire cœur de Chartreuse, d'où cette petite représentation de la station sur une pièce de puzzle. Et au début, il y avait de l'orage, c'était tendu, on ne voyait pas bien le sommet de l'Asia, c'était pas forcément apaisé. On sentait qu'il y avait des choses qui bougeaient, qu'il y avait des choses à remettre en cause, mais on ne savait pas trop comment on allait y arriver, par quel chemin on allait y arriver, et c'était orageux, électrique. Il y a donc le comité de coordination, comme on l'a évoqué au début, qui a dit bon, bah, on va essayer de mettre en place une démarche concertée entre la communauté de communes qui porte la compétence sur les remontées mécaniques, les deux communes concernées par ce domaine skial, et l'association Nouvelle Trace, fortement engagée dans cette démarche, avec des problématiques, ou une problématique très complexe, de nombreux éléments. Il n'y a pas de réponse simple, il y a des questions financières, des questions de changement climatique, des questions liées au comportement des clients. On a plein d'idées, il y a eu des premières réunions publiques où il y a eu une nébuleuse d'idées, mais sans forcément savoir lesquelles étaient les bonnes, et la volonté d'aller petit à petit vers un projet partagé. Donc ici, vous voyez le petit comité de coordination là, qui s'est dit en même temps, on ne peut plus, collectivité seule, aborder ces questions-là, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus largement que juste nous, élus. Il faut qu'on s'associe, il faut qu'on travaille ensemble, et on a besoin pour ça d'un accompagnement. Excusez-moi, c'était pour le temps d'un. On a besoin pour ça d'un accompagnement, donc ça a été le cas avec Olivier Boursier, avec également le travail de Transtat, et puis moi-même sur la partie facilitation. Au début donc, de la démarche, il y a des objectifs qui ont été posés, de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut faire en fait, ensemble. On voulait co-construire une station multi-activité avec comme noyau central les remontées mécaniques du Planolet, de la Combe de l'Ours, du Creux de la Neige, interconnectée au hameau du Planolet, des Essarts, du Batour et aussi de l'Asia, et aussi avec les bourgs des deux communes qui pourraient y être associées. Et comme principal objectif, c'était de réfléchir, de permettre un peu à tous ceux qui souhaitaient s'y associer, de réfléchir et de collaborer à la définition d'une nouvelle offre touristique économiquement viable, socialement acceptable et durable, qui s'appuie sur le domaine skiable et qui permettent d'être interconnectés avec d'autres activités et d'autres services. Et qui permettent en même temps d'installer une nouvelle forme de coopération, une nouvelle forme de gouvernance sur le territoire. Vous voyez qu'entre l'objectif de départ et puis là où on en est aujourd'hui, il y a eu aussi un certain nombre d'évolutions et ça fait partie du processus des prises de conscience, des échanges qui ont eu lieu. Ça a été vraiment quelque chose au fur et à mesure. Donc, pour en revenir à mon petit schéma, là, au départ, le comité de coordination a posé des lignes rouges en disant, voilà le cadre dans lequel on souhaite travailler. On ne peut pas tout faire, tout n'est pas possible. Voilà un petit peu les éléments qui vont encadrer notre travail. Donc, c'était un petit peu le cadre. Il y a aussi eu un élément important, c'était de se dire, on travaille dans le cadre de la destination chartreuse et on doit être cohérent avec cette destination. Et également, comme élément fondateur du travail, un certain nombre d'études, de diagnostics, et on a déjà évoqué Transtat. Je reviens rapidement sur les lignes rouges, parce que c'est important. On les a affichées à toutes les réunions qu'on a faites, quasiment. Et je les ai marquées, là. Moi, j'ai fait un petit travail pour me dire, bah, est-ce qu'on est bien dans le cadre de ces lignes rouges ou pas. En jaune, c'est partiellement réalisé ou atteint, donc partiellement, en vert plutôt réalisé ou atteint, et en blanc, mais il n'y a rien qui est blanc ici, c'était des lignes rouges qui n'auraient pas été réalisées. Donc je les reprends rapidement. La première, c'était effectivement que le projet contribue et donne corps au positionnement destination chartreuse et soit complémentaire d'autres offres touristiques existantes. Le deuxième point, c'était que le projet ne soit pas uniquement basé sur l'activité ski alpin, là je pense qu'on y est pleinement, que le projet trouve un modèle économique viable qui finance son exploitation et qui permette son renouvellement sans mettre en difficulté les finances des collectivités locales. Et que ces retombées bénéficient aux acteurs locaux, notamment aux habitants. Le quatrième point, que le projet réponde aux enjeux du changement climatique en cœur de Chartreuse afin de garantir une préservation des ressources naturelles et de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier point, La gouvernance du projet, animée par le comité de coordination, doit permettre une large mobilisation et implication des parties prenantes, publiques et privées, dans son élaboration, dans sa mise en œuvre et dans son exploitation. Je pense que vous allez le voir, mais ça, ça a été vraiment un élément très fort. Je vais bientôt passer la parole, mais du coup, pour vous montrer qu'à partir de ce point de départ, de la réflexion du comité de coordination, il y a un chemin qui a commencé à se dessiner pour se dire comment on va se mettre en mouvement, comment on va travailler ensemble. Et on a identifié trois groupes de travail, le comité de coordination donc, qui pilotait, le grand public qui avait été associé lors de premières réunions publiques où il y avait plus de 100 personnes qui avaient participé, et parmi ces personnes du grand public, un groupe d'alliés auquel on a proposé de s'associer plus étroitement et de vraiment venir beaucoup plus régulièrement travailler. Donc trois niveaux d'implication. Ça je vais le sauter, je pense que c'est pas indispensable. Et donc là vous voyez les trois premières petites patates vertes, c'est les trois premières réunions publiques qui ont eu lieu en janvier et février de cette année et qui ont permis de commencer la réflexion au départ avec comme question de départ, c'était un peu la question comment relancer la tombe de l'ours. Et vous voyez que le cheminement a fait qu'on est arrivé à un endroit bien différent. Les petits points jaunes, c'est du coup le comité de coordination qui s'est réuni en parallèle. Là, vous voyez en bleu toutes les réunions du groupe d'alliés. Donc, vous voyez ceux qui font partie du groupe d'alliés. Ils ont beaucoup travaillé, ils se sont vus souvent avec tout un tas d'étapes. On a travaillé sur les pépites et les possibles. On a travaillé sur la notion de chartreuse comme archipel. On a travaillé sur les notions d'espace et de site qui vont vous être présentées dans un instant. Le fait que ce soit pour les habitants et les visiteurs, un tourisme doux et respectueux. Et que ce travail qu'on faisait ensemble, on souhaitait qu'il soit aussi plaisant et qu'on avance ensemble. Et en parallèle de ces groupes d'alliés en bleu, le comité de coordination qui s'est aussi souvent réuni pour avancer et travailler.
On marque une pause musicale et on revient dans un instant pour poursuivre votre émission. À tout de suite.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Nous sommes de retour dans cette émission consacrée à Montagne Autrement 2030.
On n'était pas sûr de vous présenter cette partie-là, mais comme on est bien dans le timing, on va le faire rapidement. C'est un travail qui est encore en cours, donc il n'est pas abouti, mais c'était quand même l'idée de vous présenter là où il en est, parce que peut-être que les uns ou les autres, vous allez avoir envie de rejoindre le groupe des Alliés pour poursuivre ce travail et le terminer. En travaillant en fait, sur ces sites, le Planolet, les Essarts, l'intention c'était aussi qu'il puisse y avoir du lien entre les différents sites et les différentes propositions, que chacun fasse pas son truc dans son coin, en potentiellement dupliquant ce qui se fait chez le voisin, mais qu'on réfléchisse aussi ensemble. Sur le plan opérationnel, c'est pas toujours évident, mais il y a eu quand même la proposition de se dire, mais, et si on posait ensemble une espèce de charte de bonne pratique ou de cadre qui nous oriente toutes et tous dans les projets qu'on peut porter sur le Planolet, les Essarts, mais peut-être aussi au-delà, dans une direction commune dans laquelle on a envie d'aller. Et du coup, l'idée, c'était qu'on vous présente là où on en est. Il y a 10 points, on va le faire assez rapidement pour vous donner un premier avant-goût de ce que ça pourrait être, mais encore une fois, c'est pas abouti, donc soyez indulgents. Charlotte, c'est toi qui commence.
Premier point, donc le projet doit être cohérent avec et doit contribuer à la mise en œuvre de la stratégie territoriale, notamment celle de destination chartreuse, donc on en a déjà parlé. Effectivement, le travail qu'on a fait, ce point-là est vraiment ressorti dans tous les groupes qui ont travaillé. Donc c'est continuer dans le sens de la destination chartreuse et ce qui est déjà fait aujourd'hui sur le territoire.
Je vais faire le deuxième et le troisième point en même temps, parce qu'ils se rejoignent un peu. C'est que le projet doit faire l'objet d'un suivi, d'un avis du comité de coordination et de garantie de cohérence avec celui-ci, avec les stratégies locales. Donc l'idée, c'est qu'on garde, avec le point suivant, la co-construction, en mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire, les habitants, la posture collaborative. C'est qu'on garde cette façon de travailler qu'on a eue, et qu'on puisse la faire perdurer. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une cohérence globale et une multitude d'acteurs qui travaillent dans ces projets futurs pour garder cette cohérence.
Donc la partie écosystème, c'est tout simplement le fait de se dire que le projet, il doit être connecté à l'ensemble de tous les projets élémentaires. Ce projet, il doit garantir le fait qu'il y a du multi-partenariat et surtout renforcer l'aspect couverture géographique. Donc je parlais tout à l'heure du besoin de travailler sur la suite, et je pense que si vous en êtes d'accord, il va falloir qu'il y ait de nouveaux acteurs qui rentrent pour surtout continuer à travailler là-dessus, parce qu'il y a eu un travail préparatoire, mais maintenant il faut faire un travail de déploiement. Donc le volet communication dont on parlait tout à l'heure, on le voit apparaître ici, par rapport au fait de vouloir renforcer la communication, s'il y a besoin de l'améliorer, d'accord, et à travers cette communication, aider les partenaires existants, voire même des nouveaux partenaires, à rentrer dans la région.
D'autres points qui sont ressortis, notamment donc, le projet doit limiter des impacts sur l'environnement, donc limiter l'artificialisation notamment, et doit répondre donc, aux enjeux du changement climatique. Donc ça, c'est ressorti aussi dans la globalité des groupes. Et le projet, donc, au-delà du changement climatique et de l'environnement, il doit aussi répondre à une qualité globale, aussi bien dans la partie qualité de l'infrastructure, que service, même la qualité d'accueil. L'idée, c'est de se dire, on offre un territoire qui est ouvert, accueillant, dans tous les sens du terme.
Et une dimension qui est sortie aussi du travail des personnes dans cette soirée, c'était qu'il y a une dimension innovation, renouvellement, recherche dans le projet. L'innovation, ça ne veut pas dire... ça veut dire quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire quelque chose de technologiquement nouveau, mais quelque chose qui se différencie des autres territoires, et puis qu'il y a des projets, bien sûr, qui doivent fonctionner toute l'année.
Donc un ensemble de projets qui s'adresse aussi bien aux habitants de la Chartreuse qu'aux personnes extérieures, dont je fais partie, le Voironnais, le Moranais, on est partenaires. Et donc ce projet, c'est vraiment réussir à le mettre en place sans impacter la qualité de vie des Chartreusains. J'ai entendu, quand on a eu nos premières réunions, le fait qu'il y avait des gens qui avaient peur de l'arrivée massive de tourisme qui avait peur des bruits des voitures, des problèmes de stationnement, des problèmes de pénurie d'eau. Là, il y a vraiment ce volet environnemental et sociologique qui fait que la volonté, c'est pas de perturber, c'est pas de gêner, mais faire participer les habitants et surtout leur permettre de profiter aussi de cette vie en charpente. Donc la viabilité économique, c'est un autre aspect qui a été adressé, c'est-à-dire la pérennité des différents projets dans le temps. Les projets qui sont mis en place, ils doivent, si possible, pas être concurrentiels, si possible. Et surtout, ils doivent avoir une durée dans le temps sur les quatre saisons pour qu'il y ait un intérêt pour la région, pour la station, pour la montagne. Peut-être juste un point, c'est se rappeler que tout ce travail-là, il a été fait sur plusieurs réunions, mais principalement dans une réunion où il y avait 6 groupes de travail. Et ces 6 groupes étaient constitués de 5 ou 6 personnes. Chaque personne était complètement libre d'amener différentes idées. Et on s'est retrouvé quand même globalement avec ces 6 groupes à avoir des idées quand même qui étaient très proches. Donc ce n'est pas quelque chose de sorti du chapeau, c'est quelque chose qui a été amené par des gens qui étaient là. Et là, le message, c'est vraiment s'il y en a de nouveaux qui veulent arriver, ils sont les bienvenus, quoi. Enfin, je me permets.
Tu te permets bien et ça fait une bonne transition avec la suite et la fin. Donc comme je vous le disais, c'est un travail qui est encore en cours. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme ça va aboutir, mais il est déjà bien avancé et ça sera une feuille de route, une ligne de conduite, une charte, on va voir un petit peu comment on le nomme, qui devrait permettre de continuer les réflexions qui ont été menées cette dernière année. Et du coup, je reviens un tout petit peu en arrière dans notre présentation sur les derniers pas. Donc, je reviens sur mon petit dessin là. Je vous disais au début qu'on partait d'une problématique complexe, avec l'envie de faire le ménage un peu dans la nébuleuse d'idées pour aboutir potentiellement à un projet partagé. Peut-être qu'au final, c'est pas un projet partagé, mais c'est des projets multiples au service d'une vision partagée. C'est peut-être plus vers ça qu'on se dirige. On espère qu'au début, alors vous ne le voyez peut-être pas, c'est un peu petit, mais il y avait plein de points d'interrogation autour des petits bonhommes là en bas à gauche, alors que sur le côté droit, il y a peut-être plus d'ampoules qui s'allument avec des idées, des envies pour passer de ce qu'on connaissait de la station jusqu'à présent et petit à petit arriver à se projeter sur qu'est-ce que ça pourrait donner et comment on pourrait fonctionner et quelle offre on pourrait avoir à l'avenir. Donc ça, c'est un peu pour la suite. Et du coup, le travail n'est pas fini. Hein. Je ne sais pas si c'est pour vous rassurer ou pour vous décevoir, mais en tout cas, il y a encore... ça va continuer, comme le disait Olivier, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc il y a un travail qui va se poursuivre sur le cadre qu'on vient de vous présenter, là, les 10 points qu'on vient de vous présenter. Ça, c'est un travail qui a été mené par le groupe d'alliés, dont quelques représentants sont là à vous le présenter. Donc ça va se poursuivre pour le faire aboutir. Il va y avoir un travail plus spécifique sur la vision espace qui potentiellement sera piloté par la communauté de communes Cœur de Chartreuse vu que c'est à l'échelle de ce territoire-là. Ce n'est pas encore défini exactement sous quelle forme ça va se faire, mais il y a un travail, on sent qu'il y a besoin de continuer là-dessus. Il y a un travail qui va se poursuivre aussi plus spécifiquement sur le site des Essarts avec le pilotage de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse. Idem sur le site du Planolé, avec pilotage de la commune de Saint-Pierre d'Entremont. Donc, un petit peu ces différents chantiers qu'on vous a présentés ce soir qui vont se poursuivre et auxquels vous pouvez très volontiers vous associer. Pour ce faire, vous avez vos petites feuilles sur lesquelles je vous invite à écrire vos noms, vos adresses mail et puis le numéro 1, 2, 3 ou 4 pour nous signifier que vous avez envie d'y participer. On notera vos adresses et puis comme ça, on pourra revenir vers vous pour vous dire un peu, vous donner les actualités et les possibilités de continuer à contribuer. Et vous avez aussi la possibilité, point 5, de proposer de nouvelles idées, comme ça a été fait par Cécile et Eric, en disant, est-ce qu'il n'y a pas un autre chantier à lancer autour de la problématique des hébergeurs et de comment on fait vivre les hébergements dans cette période de transition. Donc si vous avez des idées de ce type-là, écrivez-les-nous aussi sur un petit papier avec votre nom, votre adresse mail, pour qu'on puisse revenir vers vous. Et encore une fois, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir, alors soit vous pouvez les poser aux uns ou aux autres tout à l'heure en prenant un petit verre, soit n'hésitez pas à les écrire aussi sur les petits papiers et on essaiera, autant que faire se peut, d'y apporter des réponses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est possible, hein ? Ça va ? Qui veut conclure ? Est-ce que quelqu'un du comité de coordination veut dire un petit mot pour conclure ? Ah, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question.
Moi, dans tous les projets, on a fait des commentaires, là. J'aurais bien mis la viabilité économique au début, parce que on peut faire tous les projets qu'on veut, mais il faut qu'ils soient monétisables et qu'ils soient créateurs d'emplois. C'est ce qu'on cherche un peu, quoi. Donc, c'est dommage de mettre la viabilité économique à la fin, quoi.
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'ordre particulier, mais on prend bonne note de l'accent mis sur cet élément-là en particulier. Merci. D'autres dernières questions, réactions? Emmanuel? Il y a Claire.
Claire, avec ma casquette d'habitante de Saint-Pierre-de-Chartreuse, je ne sais pas si j'ai bien compris. En fait, en tout début de présentation, vous avez parlé de la démarche de Jean-François Caron en disant qu'il y avait des projets à venir, mais que la question principale, enfin la première en priorité à traiter, était le sujet de l'épine, en fait, dans le pied, enfin, si j'ai bien compris, enfin, j'espère que je suis fidèle aux propos, de la station. Est-ce que j'ai bien compris, du coup, quels sont ces projets-là du départ? Enfin, est-ce qu'il y a des choses dans les cartons ou comment? Voilà, c'est juste pour savoir si, en fait, est-ce que les deux projets, c'est le Planolet, les Essarts, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en parallèle, quelque part, voilà, qui guident aussi les réflexions des uns et des autres?
Merci. Oui, bah, merci, c'est important, si ce n'était pas clair. Le constat de Jean-François Caron, c'était de dire le ski, c'est effectivement un sujet qu'il faut régler. Vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement de la Fabrique des Transitions qui a financé une partie du travail d'accompagnement, pas tout, mais une partie du travail d'accompagnement que vous avez, dont a pu bénéficier le territoire, pour du coup se dire bah, cette question du ski, comment on l'attrape et comment on passe à un projet. Donc c'était un des deux projets. Cet accompagnement, le travail montagne autrement 2030, c'est un des deux projets. Mais en même temps, le territoire Cœur de Chartreuse a dit, bah, pour nous, c'est aussi important de travailler à l'échelle de l'ensemble de Cœur de Chartreuse. Il n'y a pas que la station. Donc on a travaillé, il y a eu également une deuxième démarche qui a été menée autour du vallon des Chartreux. Donc ça, c'est le deuxième projet qui est bien engagé. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux dire un mot.
Du coup, c'est un peu plus loin que le vallon des Chartreux, hein, puisque ça couvre depuis Fourvoirie jusqu'à la porte de l'enclos, voire un peu plus loin. Et l'idée, c'était de retravailler, de revaloriser le patrimoine chartreux à travers une démarche d'itinérance douce. Et si vous l'avez regardé, aujourd'hui, il y a une consultation qui a été lancée par le Parc naturel régional de Chartreuse pour recruter un groupement de bureaux d'études pour travailler sur justement la définition de cette itinérance depuis à minima Fourvoirie jusqu'à la porte de l'enclos en intégrant le vallon du monastère.
Merci pour ces précisions. Je ne vois plus de mains levées, donc je vais passer le micro. Ah, si, il y en a une quand même qui se lève à la dernière minute. Ouais, 2 minutes encore.
Oui, sinon, il y a plein d'idées, de projets qui sont en cours, comme c'est ma partie, je fais un peu de pub. Il y a la traversée de la Chartreuse à cheval, à l'âne, et les sentiers qu'on est en train de tracer pour permettre cela. Donc, le fait de voir à nouveau les chevaux et les ânes en Chartreuse, ça va aussi orienter et ouvrir d'autres perspectives.
Merci Jeanne.
Oui, merci Claire. Juste une petite conclusion très rapide. Moi, je renouvelle mes remerciements pour votre présence nombreuse et le fait d'être restée aussi jusqu'à la fin. Voilà, je pense que c'était une réunion dense, riche. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le travail qui a été fait, que vous avez appris des choses et que vous allez ressortir satisfaite de cette réunion. Et je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé, comité de coordination, le groupe des alliés, avec tous les participants dans chacun des deux sites, hein, et avec l'accompagnement qu'on a pu avoir avec Olivier et Claire, et puis Emmanuel Herman de la communauté de communes. Merci à tous pour ce gros travail qui a été fait. Je pense que collectivement, on peut quand même être fiers de là où on en est, surtout quand on voit ce qui se passe autour de nous. Donc bravo à tous, merci. Et puis maintenant, on peut continuer à discuter autour du buffet.
C'est la fin de votre émission consacrée à Montagne Autrement 2030, nous questionnant sur la montagne et le tourisme de demain. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur aurafm.org. Bonne journée à tous sur votre radio locale associative.
Aura des pâquerettes.
L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.